Conférence privée par le père Philippe à Rimont, le 26 février 1988.
Nous sommes dans le mystère des trompettes. Alors j'avais essayé avec vous d'interpréter, c'est toujours très difficile. Surtout que n'oubliez jamais que ces interprétations sont diverses. Il n'y a pas qu'une seule interprétation. Je ne crois pas qu'on puisse préciser le nombre d'interprétations. Je ne crois pas. Ce serait intéressant de savoir si de fait, vous voyez, comme je vous avais dit pour les sept sceaux, il y a comme sept grandes lignes de force qui nous permettraient de comprendre une théologie de l'économie divine. Les trompettes, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup moins intelligible, c'est l'exécution. Alors, comme c'est l'exécution, souvent l'exécution se comprend dans le résultat. Et le résultat, il est assez net. Hein. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers, et que le jour ne brilla plus d'un tiers, et la nuit pareillement. Alors je crois le symbolisme du soleil, je vous le disais, c'est le mystère de Jésus. Le symbolisme de la lune, c'est Marie. Le symbolisme des étoiles, c'est les docteurs. Le Christ, il est la lumière. Marie, elle nous adapte cette lumière. Et les docteurs, les étoiles, sont là aussi pour nous éclairer, nous aider. Alors il y a comme un obscurcissement d'un tiers. C'est évidemment, ce n'est pas le Christ qui s'obscurcit, vous comprenez, mais c'est la possibilité de la transmission qu'il peut y avoir. Par rapport à ça qu'il faut le comprendre. Nous sommes dans l'exécution. Donc il y a une transmission, c'est la manière dont on peut recevoir un enseignement. Quand on voit ce qui se passe, on comprend très bien que le mystère de Jésus, oui, se transmet difficilement aujourd'hui. Quand vous voyez, je ne sais pas, regardez le nombre de choses qui se transmettent, et parmi ces choses qui se transmettent, où se trouve la lumière du soleil ? Où se trouve Marie, où se trouve la doctrine. Il y a peu de choses. Je crois que c'est ça que nous pouvons essayer de comprendre, parce que ce n'est pas premièrement, vous comprenez bien, le phénomène physique. Et je vis, et j'entendis un aigle volant au zénith. Dit d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre. » À cause des autres voix de la trompette des trois anges qui vont sonner. Alors, cet ange volant au zénith, plus exactement, j'entendis un aigle volant au zénith. L'aigle, c'est l'Esprit Saint. Venant au zénith, donc au sommet, c'est aussi le mystère de Jésus. Je crois que c'est comme une révélation qui nous est donnée d'une voix forte. La voix, c'est toujours l'Esprit Saint. Et quand on souligne la voix et qu'on ne dit pas la parole, c'est plutôt l'Esprit Saint. C'est donc l'Esprit Saint qui nous révèle, avec le secours de Marie, sans doute, qu'on entre dans cette dernière période, mais encore une fois, comprenez bien, c'est pas nécessairement espacé dans le temps, quoique lorsqu'il s'agit des mystères de trompette, parce qu'on est dans l'exécution, le temps est inscrit dans l'exécution, pas dans les sceaux. Et je crois que le temps est inscrit, donc ce serait plus exact, ce serait à partir d'un certain moment, on entrerait dans les malheurs, les trois grands malheurs, à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette, des trois anges qui vont en sonner. Donc ceux qui habitent sur la terre, ce n'est pas les habitants de la terre, c'est les habitants de la terre si vous voulez, mais ce n'est pas nécessairement ceux qui sont des matérialistes. Nous habitons sur la terre. C'est ceux qui peuvent recevoir tout le conditionnement dans lequel nous nous trouvons. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui du ciel était tombée sur la terre. Et lui fut donnée la clé du puits de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Alors, étoile. Normalement, c'est toujours la même chose. L'étoile, c'est toujours la doctrine. Et ça peut être dans une personne qui, au fond, aurait dû être une grande lumière. Une étoile qui, du ciel, était tombée sur la terre. Alors la chute sur la terre, c'est nécessairement le passage de la lumière aux ténèbres, de la nécessité à la contingence. Il fut donné la clé du puits de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme une fumée de grande fournaise. Et le soleil et l'air furent enténébrés par la fumée du puits. Alors vous pouvez évidemment, vous voyez, je mets des noms pour qu'on comprenne un peu, vous voyez. On pourrait dire qu'un Luther représente bien ça. Je crois. Il y avait chez Luther des capacités assez étonnantes. Je prends Luther, on pourrait en prendre d'autres. Mais Luther représente dans l'histoire de l'Église quelque chose de tellement important. C'est par rapport à l'Église. Ce n'est pas des hommes politiques. Ce ne sont pas des étoiles. Tandis que les docteurs sont des étoiles, les religieux sont des étoiles. Quelqu'un qui aurait pu être une grande lumière qui est tombée sur la terre. Ce n'est pas nécessairement un seul, vous comprenez. Ça peut être d'autres. Ça peut être certains grands théologiens qui auraient dû normalement éclairer et qui sont tombés sur la terre. Il fut donné la clé du puits de l'abîme, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits, alors c'est sûr que le puits apparaît maintenant source d'une fumée, comme une fumée de grande fournaise, et le soleil et l'air furent enténébrés par la fumée du puits. Le soleil et l'air, donc tout le contexte, tout le milieu. C'est évident quand vous voyez ce que représente dans l'histoire de l'Église la réforme, ben c'est une secousse prodigieuse. Prodigieuse pour l'Église. Et quand vous voyez toutes les conséquences dans lesquelles on est dedans, Faut bien voir. Même si on essaie de baptiser, du moins de réhabiliter Luther, Luther reste quand même tout le temps celui qui est tombé du ciel sur la terre. Et de la fumée sortir des sauterelles sur la terre. Vous voyez, une espèce de source néfaste forme d'antéchrist. Parce que pour Saint Jean, les antéchrists ont toujours existé. Hein. Depuis le début. Saint Jean le dit. Et donc une étoile qui tombe sur la terre, c'est un antéchrist. Il était de chez nous. Donc il était du ciel. Il était étoile. Et puis ils ont perdu le sens de ce que représenterait la contemplation, la doctrine de l'Église. Et de la fumée sortir des sauterelles sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Ben, c'est tout le symbolisme de la destruction, quoi. Les sauterelles, c'est ce qu'ils mangent. Toutes les petites verdures du printemps, quand les sauterelles passent, il n'y a plus rien. Alors la fumée, c'est ce qui est en ténèbres. Ce qui nous empêche de voir vraiment la lumière, et à partir de là, il y a une espèce de fausse fécondité. Et cette fausse fécondité, c'est les sauterelles. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc des sauterelles sur la terre ont ce pouvoir des scorpions. Destruction. Je crois qu'il faut le prendre d'un point de vue spirituel. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Alors, voyez, de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure. Donc, la vie végétative demeure. Les saisons demeurent. Vous savez, cette réflexion que faisait Malraux, qui est une de ces réflexions très, très étonnantes, quand il disait que il allait bombarder les villes et qu'il relevait, qu'il repartait après avoir fait ce qu'il devait faire. Donc une œuvre de destruction. Qui repartait et qui rencontrait en repartant ces oiseaux migrateurs dont leur parcours n'avait changé en rien. Et la destruction que fait l'homme et la nature et le cycle de la nature continue. Pendant un certain temps, peut-être qu'on peut y toucher, je ne sais, ça c'est très difficile, on ne saura jamais exactement. Vous voyez, toutes les hypothèses qu'on peut donner aujourd'hui. Pourquoi les saisons sont-elles un petit peu changées? Alors, les âmes pieuses, la salette, les âmes moins pieuses, mais il y a des changements. Vous voyez, et tout ça c'est des interprétations, c'est très vrai. Je ne le sais pas d'une façon absolue. Les possibilités de déluge, si vous voulez. On ne le sait pas d'une façon absolue. Parce que Dieu ne dit qu'il n'y aura plus de déluge. Et donc, il remet à l'homme le soin de gouverner la terre. Et que c'est l'homme lui-même qui, sous la mouvance, de mauvais esprits fera que la terre ne sera plus habitable. Ou bien que les choses seront tellement changées qu'on sera devant quelque chose qui ne pourra plus durer. C'est possible. Je n'en sais rien. Et si la mort du Christ est le modèle de la destruction de notre univers, ce que je crois, puisqu'il est le roi de l'univers, Jésus laisse aux hommes, le Père a laissé aux hommes, et Jésus aussi, la possibilité de détruire le chef-d'œuvre de notre monde. Si les hommes ont détruit le chef-d'œuvre de notre monde, ils détruiront le reste. Ça c'est sûr. Si on détruit la partie principale, on peut dire qu'il y aura une conséquence de tout cela. Dieu a laissé cela. Et les hommes, dans leur haine de la vérité, puisqu'on peut dire que c'est ça le combat dernier, Jésus dit en dernier lieu, je vais lui rendre témoignage à la vérité. Et donc le combat dernier, c'est la haine de la vérité contre la vérité. Dieu a laissé jusqu'au dernier moment. Mais avant que les hommes aient pu, par leur œuvre propre, enlever la vie du Christ, le Christ l'a offerte. Il a devancé son heure. Pour moi, c'est très éclairant. À un moment donné, les hommes, et on y est peut-être, n'est-ce pas ? On ne peut pas le savoir. À un moment donné, les hommes auront réalisé une telle destruction que normalement notre univers ne peut plus durer. Au point de vue fécondité ou au point de vue vie. Mais Dieu ne laissera pas les hommes détruire notre univers. Il viendra avant. Je crois. Je crois qu'on peut le dire en fonction même de ce que saint Jean nous dit sur la mort du Christ. Ça, c'est l'Apocalypse le montre aussi, ça. C'est un des aspects que nous pouvons saisir à partir de l'Apocalypse. Ce qui est sûr, c'est que Dieu laisse aux hommes un pouvoir extraordinaire de destruction. Un pouvoir qui pourrait aller de plus en plus, puisque les armes sont de plus en plus puissantes au point de vue destruction. L'homme est capable de pouvoir tout détruire aujourd'hui. Mais je ne crois pas que l'homme détruira tout et que Dieu reviendra avant. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre cette cinquième trompette. Voir qu'il y a comme une dialectique du mal. La fumée et de la fumée sortir des sauterelles. Il y a une espèce de génération de sauterelles sur la terre, symboliquement, comprenez bien, qui provient de la fumée. Mais le pouvoir de ces sauterelles, qui est comme celui des scorpions, c'est-à-dire un pouvoir qui blesse, un pouvoir qui empoisonne, un pouvoir qui tue, ce pouvoir reste limité. Et pour bien montrer qu'il est limité, il ne détruit pas tout. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun autre arbre. Alors comprenons bien, c'est le printemps, ça. Ils ne peuvent pas nuire à l'égard d'un renouveau, par exemple. Il faudrait bien, il y a une protection de Dieu. Parce que ce pouvoir nocif des sauterelles qui sont comme des scorpions, est limité, est dans dépendance de Dieu. Et Dieu veille sur la vie, dans ce qu'elle a de plus simple, l'herbe de la terre, la verdure, les arbres. Mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. C'est-à-dire tous ceux qui, de fait, se conduisent comme des ennemis du Christ. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et leur torture est comme la torture du scorpion quand il pique l'homme. C'est pas très drôle, hein ? En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuit loin d'eux. Et voici à quoi ressemblaient les sauterelles. Vous voyez qu'une logique extraordinaire. Hein, l'imagination de Saint-Jean, elle est extraordinaire. Bonne imagination, que le Saint-Esprit se sert de façon éloquente. Évidemment, c'est des images qui sont toujours apocalyptiques et qui existent à travers toute l'Écriture, du reste. Alors, si on voulait bien comprendre, il faudrait avoir la fiche sauterelle et regarder à travers toute l'Écriture la fiche sauterelle. ça ne nous avancerait pas grand-chose. Parce que c'est un langage symbolique qui nous fait montrer que, de fait, il y a un pouvoir de destruction. Et voici à quoi ressemblaient les sauterelles. Elles étaient semblables à des chevaux prêts pour la guerre. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme celles de lions. Alors cherchez à comprendre cette chose-là. Hein. Poussez jusqu'au bout, ceux qui ont un sens de la caricature, de bien saisir ce que ça représente, ces diverses successions masquées. C'est extraordinaire de voir comment le mal engendre le mal. Comment il y a cette espèce de multiplicité qui se fait. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes, et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions, et elles avaient des thorax comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à nombreux chevaux courant à la guerre. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des dards. Et dans leur queue est le pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Donc on retrouve les 5 mois. Elles ont sur elles, pour roi, l'ange de l'abîme. Son nom en hébreu, Abaddon. Et en grec, il a nom Apollyon. Le premier malheur s'en est allé. Voici qu'il vient encore de malheur après celui-là. Alors vous voyez que tout commence par la chute de l'étoile. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est terriblement imaginatif. Et c'est un pouvoir de destruction. Alors ce qui est important, c'est de voir que ce pouvoir est limité. Donc il est sous la dominance, sous la domination de Dieu. Dieu permet cette destruction. Alors prenez ça intérieurement. Intérieurement, ça va très loin. C'est la désagrégation absolue de la communication de la vérité. Regardez aujourd'hui, on me montrait certains manuels pour le bac, pour les questions philosophiques, on a absolument l'impression qu'on est devant une destruction complète de la vérité. Quand on voit de pauvres intelligences prises à ça, on se dit, mais comment la vérité peut-elle encore durer ? Une espèce d'opposition et une destruction de ce que représenterait normalement la communication de la vérité. Alors vous pouvez lire tout ça à ce niveau. On est dans les ténèbres puisque c'est la fumée, comme une fumée de grande fournaise. Ce qui normalement devrait être des lieux, des oasis de lumière, s'est enténébré par la fumée du puits. Et alors à partir de là, on voit très bien comment de la fumée et sortent tout ce qui détruit la vie, des sauterelles sur la terre, un pouvoir comme un pouvoir de scorpion. C'est juste l'inverse de la fécondité. Mais cependant, Dieu veille. Et il ne nuit qu'aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il est pour ceux qui ont une confiance totale en Jésus, en Marie, ils passent à travers tout ça. Vous savez, les anges doivent être de temps en temps en admiration de voir qu'on passe à travers tout ça. Je suis persuadé. Normalement, c'est fichu. On devrait tous l'être. C'est comme pendant la dernière guerre, n'est-ce pas ? Quand on avançait, puis on vous disait non, inutile d'avancer, inutile, vous êtes entouré. Alors il fallait ne tenir compte aucun compte de tout ce qu'on pouvait dire, et puis on continuait. C'est la seule manière de se sauver autrement. C'est un peu la même chose, vous voyez, aujourd'hui. Si on tient compte de ce que les gens vous disent, ben on s'arrêterait. Vous êtes sur une gare de garage. Fichu. Qu'est-ce qui va regarder aujourd'hui la métaphysique? Personne. Donc faites autre chose. Et on se laisse prendre. Et alors on perd à ce moment-là une ligne de conduite. Je prends la métaphysique parce que c'est particulièrement mis en lumière. Il y aurait autre chose. Des quantités de choses sont comme ça. Surtout quand il s'agit, vous voyez, parce que la chute, c'est quand même l'étoile. C'est la destruction de la vérité qui nous est montrée dans ce malheur du cinquième trompette. La destruction de la vérité. Et alors à partir de là, ce chaos effrayant de l'efficacité. Le critère, c'est l'efficacité. On ne recherche plus la vérité. On recherche ce qui va nous donner de l'argent. Ce qui est vendu. Ce qui est vendable. C'est le critère d'efficacité. Critère du commerce. Je crois que c'est bien ce qui est montré là. Alors évidemment, ce serait à voir, et voici à quoi ressemblaient les sauterelles. Alors à ce moment-là, vous pourriez essayer d'analyser ce que c'est que ces sauterelles. Hein. Ce qui vient nuire à la vitalité de l'intelligence. Ce qui empêche l'intelligence d'être elle-même dans sa recherche de la vérité. Elles sont semblables à des chevaux prêts pour la guerre. Donc la lutte. Ne vous engagez pas par là, ce sera la lutte. Sur leur tête, il y a comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Je crois que c'est la bagarre dans laquelle on se trouve qui nous est montrée de cette manière-là. Les trois malheurs doivent se tenir, hein. Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu. Donc une voix. Elle disait au sixième ange, celui qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, furent déliés, afin de tuer le tiers des hommes. » Alors comme c'est difficile à comprendre, hein, puisque ça a l'air sous le point de vue de Dieu, ça. Délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve. Les délier. Alors est-ce que c'est Dieu qui permet cette destruction par rapport au fleuve? Les fleuves correspondant en quelque sorte à ce que peut représenter le point de vue de la vie. Sans doute ça. Délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, et le mois, et l'année, furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers en campagne était de 2 myriades de myriades. J'entendis leur nombre. Et voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils ont des cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Et de leur bouche, il sort du feu, de de la fumée du soufre. Par suite de ces trois plaies, furent tués le tiers des hommes par le feu et la fumée et le soufre qui sortirent de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Ça, c'est admirable. Car leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles nuisent. Et les autres hommes qui n'avaient pas été tués avec ces plaies ne se repentirent même pas des œuvres de leurs mains pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni regarder, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leur vol. Alors il semblerait, voyez, que là, on a, dans ce sixième trompe, on a des forces destructives par rapport à ce que représente le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Toujours la source de vie. Donc, d'une certaine manière, la fécondité. Et alors, on voit cette lutte, là encore, avec un symbolisme extrêmement complexe, très puissant. On voit que ce pouvoir de destruction ne convertit pas et que, d'une certaine manière, laisse les hommes sans la possibilité, du moins sans se convertir et ne se repentir même pas des œuvres de leurs mains. Et on montre combien le point de vue de l'idolâtrie est puissant. C'est ça qui est fondamental dans le péché, c'est l'idolâtrie. Et comme l'adoration est ce qui est fondamental dans l'attitude religieuse, l'attitude anti-religieuse, c'est justement ce fait d'adorer des idoles. Des idoles, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'homme. Nos idoles modernes sont intérieures. C'est toutes les idéologies. Considérer qu'il n'y a rien au-dessus. D'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois. Qui ne peuvent ni regarder, ni entendre, ni marcher. À la place d'adorer le vrai Dieu, on adore tout ce qui provient de l'homme. Et l'idole, c'est tout ce qui provient de l'homme et qui se présente à nous avec, comme un certain absolu devant lequel on se soumet. Et ne se repentir pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leur vol. Vous voyez quelle différence entre ces deux malheurs, hein. Je crois que la comparaison doit nous aider à comprendre. Le premier malheur, c'est très net, hein. C'est l'étoile qui tombe sur la terre. Pour moi, c'est le point de vue de la destruction de la vérité. C'est le second malheur ici. C'est de délier les quatre anges qui sont liés sur le fleuve. C'est tout à fait autre chose. Ça symbolise, je crois, de la fécondité. Qui était comme gardée de façon particulière par Dieu. Et à un moment donné, on délie. Et à ce moment-là, alors, tout est pris, tout est emporté. Plus de différence entre fécondité et efficacité. On nivelle tout par le bas. Tout est nivelé. Et je crois que c'est ça qui nous est montré. C'est le nivellement par le bas, en fonction d'idolâtrie. Et ce qui provient du progrès est toujours bon. Ce qui provient de l'homme est toujours bon. Tout ce qui provient de la science est toujours bon. C'est ça, l'idolâtrie de la science. Et Paul VI avait dit à des scientifiques, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, et ce qui est profondément juste, la science est pour l'homme, et non pas l'homme pour la science. Et donc quand la science et la technique viennent diminuer la capacité pour l'homme d'aimer, elle devient l'idole. Et donc, provenant de l'homme, elle détruit l'homme. Et on retrouve ce que le Saint-Père avait dit dans sa première encyclique, vous savez bien. L'homme, au début, a eu le courage de lutter contre les bêtes puissantes qui étaient sur la terre, parce que ces bêtes, c'est pas lui qui les avait faites. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui aura le pouvoir de détruire ces nouvelles bêtes que sont ces armements terribles comme pouvoir de destruction? Et c'est beaucoup plus difficile pour l'homme de les détruire parce que c'est lui qui les a fait. Je crois que c'est extrêmement difficile pour l'homme de reconnaître que ce qu'il provient de lui est nocif aux hommes. Et c'est dans ce sens-là que la science joue un rôle d'idole. La science et la technique. Je crois qu'on peut dire ça ici. Et je vis un autre ange vigoureux qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée avec l'arc-en-ciel sur la tête. Et sa face était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Alors là, nous entrons entre le sixième saut, le sixième trompette et la septième trompette, dans un passage extrêmement important. Je crois qu'il doit être vu comme parallèlement à la sixième trompette. Enfin, c'est toujours les deux tableaux, ce qui vient de Dieu, ce qui vient du démon. On ne peut pas les dire en même temps, alors il y a deux vagues successives. En face du sixième trompette, qui est si puissante, il y a un secours nouveau de Dieu. Je crois qu'on peut dire le renouveau. Le renouveau, c'est ce secours de Dieu. Et je vis un autre ange vigoureux qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Cet ange ne peut être que Jésus. Enveloppé d'une nuée, avec l'arc-en-ciel sur sa tête. L'arc-en-ciel, il enveloppe le trône de Dieu. Et donc c'est Jésus ayant autorité, et Jésus dans sa gloire. Et sa face était comme le soleil. Et ses jambes comme des colonnes de feu, il avait dans sa main un petit livre ouvert. Alors c'est le petit livre qui est donné aux hommes. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et lorsqu'il eut crié, les sept tonnerres firent parler leur voix. Tonnerre, c'est toujours l'action de l'Esprit Saint. Et lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Scelle, ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Donc, on ne le sait pas. Mais Jean le sait. Faut pas l'oublier. Alors, les sept tonnerres, c'est l'Esprit Saint dans sa puissance qui veut tout renouveler à partir du petit livre. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les éternités d'éternité, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, et la terre et ce qui se trouve, et la mer et ce qui se trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour où se ferait entendre le septième ange, lorsqu'il viendrait à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Vous voyez, c'est très important, ça, je crois, parce que ça nous montre bien que l'interprétation des sept trompettes doit être successive. Avec les sauts, c'est vertical. C'est l'horizontale et la verticale, si vous voulez. Si on veut avoir un chêne. Les sept sauts, c'est la verticale toujours présente. Tandis que les trompettes, c'est successivement dans le temps. C'est l'exécution. Alors, où sommes-nous? Sixième trompette. Ça ne m'étonnerait pas. Tout proche de l'annonce de la septième. Et qu'il y a là quelque chose qui nous est donné de façon très étonnante. Le petit livre. Et les sept tonnerres. Celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Donc il y a un secret. Le petit livre va avec un mystère, un secret. Qu'il n'y aurait plus de délai et qu'au jour où se ferait entendre le septième ange, lorsqu'il viendrait à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel parlait avec moi de nouveau et disait, « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Cet ange, je crois que c'est Jésus. Vous voyez, c'est très curieux. Je ne crois pas que c'est le livre sur lequel il y avait sept sceaux. C'est autre chose. Et je m'en allais vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume. Et dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et dans ma bouche, comme miel, il était doux. Mais lorsque je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur les peuples. Et des nations, et des langues, et des rois, en grand nombre. C'est assez extraordinaire, ce renouveau, vous voyez. Pour nous, ça doit avoir une signification assez particulière. Hein, je crois. Pas seulement pour nous, mais pour beaucoup d'autres aussi. Le renouveau de l'Église, qui s'est fait comme ça. Et, voyez bien, il te faut de nouveau prophétiser sur les peuples et des nations et des langues et des rois en grand nombre. C'est un redépart. Mais voyez, le petit livre est donné. Il faut le manger. Il faut le dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et il y a les deux aspects, hein, la douceur et l'amertume. La douceur dans la bouche et l'amertume dans le ventre. C'est une arme à deux tranchants, ce petit livre qu'on comprend et qu'on mange. Il y a des choses qu'on voit très nettement et puis ça reste évidemment difficile. Une interprétation qui n'est pas commode. Alors je me demande, vous voyez, c'est pas une nouvelle révélation. Je crois pas du tout. C'est comme une compréhension plus profonde. Le petit livre. Alors, le petit livre, vous voyez, comprendre de diverses manières. Est-ce que le petit livre, c'est le petit livre que Jean doit écrire? C'est possible que ce soit son évangile. Et que ce petit livre, il nous est donné. Il est donné pour la fin, pour l'ultime. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Je ne crois pas que c'est l'Apocalypse. C'est donné pour la fin. Et ce petit livre, à la fois, il est doux à la bouche et amer au ventre. C'est-à-dire qu'il donne la douceur de la présence de Jésus. Et l'amertume dans la lutte. Il donne la force de lutter. Prends et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume. Et dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Reste quelque chose de difficile à comprendre, mais sûrement que c'est au niveau de la révélation. Alors pouvons-nous dire, c'est comme une exigence nouvelle de lire l'Écriture, il faut la dévorer. L'Écriture, elle est faite pour être mangée, c'est du pain. Tous les pères de l'Église ont considéré comme du pain. Et non pas premièrement comme un livre qu'on doit regarder avec des méthodes critiques. Je crois que ça peut vouloir ça aussi. Puis il y a les sept tonnerres. Donc s'envelopper l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint avec sa force. Il nous est donné à travers cela. Alors, est-ce que c'est cette méthode particulière de manger le petit livre? Alors il sera doux pour celui qui le mange. Et l'amertume, parce que, oui, ça augmente la lutte. Et qui sera source de lutte. Je me demande s'il n'y a pas là quelque chose de très très important pour nous. Pour nous, pour l'Église aujourd'hui. Mais pour nous spécialement, comme on est un peu lié à Jean, et que Jean, là, a une situation qui n'est pas commode. Hein. C'est bien évident. Et donc, la situation de Jean, et il est dit, il te faut de nouveau prophétiser. Alors, c'est pas le vieux Jean, vous comprenez? Non, sûrement pas. si tu veux que lui demeure jusqu'à ce que je revienne. C'est l'esprit de Saint-Jean. C'est l'esprit de Saint-Jean qui doit s'incarner, qui doit être repris. Je me demande si j'avais une révélation privée, ça ne vous avancerait pas grand-chose, puisque ce serait de l'ordre de l'opinion. Il faut regarder ça au point de vue théologique. Et au point de vue théologique, il faut revenir là-dessus, très fort. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important pour nous. Oui, alors, évidemment, ça peut être pris d'une façon très générale. Chaque fois qu'il y a une grande crise, il y a un secours de Dieu. L'Église a passé par une très grande crise. L'Église d'Europe, on peut dire que l'Église en général. C'est la même chose au Canada, en Amérique, et dans toute l'Église universelle. Elle est passée dans une très grande crise. Je crois analogue à ce qui nous est décrit au sixième, à la sixième trompette. Il semble bien qu'on peut dire ça. C'est pour ça que je faisais allusion au cinquième Luther. Sixième, c'est la reprise. Quand a chassé le démon du jour, il revient cette fois plus fort. Et je me demande si c'est pas ça. C'est très différent, parce que d'un côté, c'est la chute d'une lumière sur la terre, c'est plus facile à voir. De l'autre côté, c'est les fleuves, l'Euphrate. Et c'est de l'intérieur que se fait la corruption. C'est plus facile quand l'hérétique est en dehors. C'est beaucoup plus difficile quand il est dedans. Et je crois qu'il y a un symbolisme comme ça qui se complète et qui nous fait bien comprendre la chute de l'étoile sur la terre et de l'autre côté, au contraire, le fleuve, l'Euphrate, qui est charrié des tas de choses. Et qu'à ce moment-là, il nous est donné un secours exceptionnel, merveilleux, directement de Jésus. Notre secours ne vient que du Christ, il ne peut pas venir d'autre part. Il ne vient pas de nous, il ne vient pas de notre intelligence, c'est donné gratuitement. C'est un petit livre. Et petit livre, ça ne peut être que le petit livre en tant qu'on le mange, en tant qu'on le dévore. Vous voyez, tout l'aspect d'aujourd'hui fait que la parole de Dieu ne nourrit plus, très souvent. Qu'on la relativise. Alors elle ne nourrit plus. Et donc il y a cette exigence de se nourrir du petit livre. Et la parole de Dieu est toujours un petit livre. Mais peut-être dans cette parole de Dieu, spécialement l'évangile de Jean. Et dans cette parole de Dieu, il y a les deux. Alors ça me semble très net. C'est que se nourrir de la parole de Dieu donne une très grande douceur, et se nourrir de la parole de Dieu nous met au cœur de la lutte, l'amertume, dans les entrailles. Et à partir de là, il te faut de nouveau prophétiser sur les peuples, des nations, des langues, des rois en grand nombre. C'est comme une reprise. L'Église primitive, de la primitive Église, une reprise très très fondamentale. Il me fut donné un roseau semblable à un bâton. Je m'arrête ici.